version longue.
Ouais. Et voilà, une petite version exceptionnelle pour la dernière
pas
de
mal,
la
pas
saison.
Mal.
C'est bien, hein?
Ah oui, oui.
C'est la musique de quoi déjà au départ?
Écoute, je crois, je suis pas sûr. Il me semble que c'est la musique d'un dessin animé.
Oui, oui.
Ah c'est la musique d'un dessin animé. Une série dessin animé américaine, mais je serais incapable de dire quoi. J'ai perdu. Il me reste le fichier, mais je sais pas.
Mais où ça fait série aussi, Manix ou je sais pas quoi. Là,
tout
ça
à fait.
Penser
tout
à
fait.
Ça,
très américain.
Manix.
Ça tombe bien. Et vous savez, ça tombe bien.
Les cheveux. Ouais.
Ça tombe bien que vous me parliez de ça parce que en fait, je vous ai préparé un petit blind test parce que c'est la dernière avec des vieilles émissions, des vieux génériques de télévision. Puisqu'on a une table de vieux, donc j'ai pensé à vous. Alors je vais
même
présenter.
Même pour Jeannot, t'as trouvé?
Jeannot, c'est plus compliqué.
Les Français parlent au français.
J'ai sorti Rina Kéti.
Radio Paris est allemand.
j'ai sorti Rina Kéti avec J'attendrai hein, pour Jeannot, évidemment, c'est son époque. Hein. Il dansait des slow là-dessus. Les feuilles mortes? Non, les fleurs, les roses blanches.
Ah oui, c'est aujourd'hui dimanche. Moi, quand j'étais gamin, ma grand-mère la chantait, ça me faisait pleurer.
Ah oui, la chantait, ma grand-mère.
Attends, moi, ça m'a toujours fait pleurer cette chanson. Alors, moi, j'ai pas connu avec la version originale. Je crois que c'était Bert Silva.
Je crois.
Moi, j'avais connu. tu vois, j'avais connu. J'avais connu la version des Sunlight dans les années 60-70. Les Sunlight, je sais pas si vous vous souvenez.
Ils avaient repris ça,
absolument, et ça avait été un tube à l'époque. Hein. Alors, on va présenter cette table. Pour le numéro 630 du Coq à l'âne avec Jeannot. Jean-Cointe, on commence par le plus vieux.
C'est pas sûr.
Mais
c'est
ouais,
sûr,
je plaisante. C'est même pas lui le plus vieux, je suis sûr.
Non.
Tiens, on va faire un truc. On va faire un tour de table. Vous allez donner votre âge. Jean-Cointe.
66.
Michel Roussel.
64.
Pierre-Louis Rouni.
65.
Non, mais t'as arrêté de conneries, oui.
L'année.
C'est son
65.
Année,
non.
Okay. Ah, pardon. L'âge.
Je te demande l'âge.
Oh, c'est 53.
Ça. Ah, 53. Qu'est-ce que nous avons que j'ai Bruno André.
52.
Patrick Faure.
52, mais je croyais que c'était 1866 pour Jeannot.
Et Christian Bouteillon
Ça fera 68 le 4 juillet.
Et c'est Christian le plus vieux. Tu vois, Jeannot, c'est pas toi le plus vieux.
Ça, je le savais déjà.
Bon,
ça,
messieurs,
ça réconforte.
Messieurs, merci d'être là pour cette dernière, hein, pour s'amuser.
L'âge de monsieur le plombier en retraite.
Mais
ah,
si
66.
Oui.
J'ai donné gracieusement avec beaucoup de plaisir parce que bon, je suis
64.
Encore là.
Il y en a pas un qui m'aurait dit que je faisais pas mon âge quand même.
Ah oui, hein.
Titi, il a pas donné son âge, le Titi.
56.
Ah.
56, les enfants. Ah. Ouais, ouais, 56. Bon.
Ah, wow. Tu les as pas arrosés.
Comment ça, arrosé?
Ah non, tu les as pas arrosés.
C'est-à-dire?
Ça s'arrose un anniversaire.
Oh non, mais 56, non.
Bah si, 56 quand même. Bah, moi, le jour
50...
où j'ai 56, je vais pas y avoir.
Non, tu fais 55, 60 à la limite. Mais faut pas décoder. Bon, les enfants, alors, écoutez, pour commencer, j'ai vu il y a quelques temps, je sais pas si vous avez suivi, mais en tout cas, je vais faire un petit comeback, un petit flashback plus exactement, de quelques jours en arrière. C'est un politique, c'est un sénateur qui a fait le buzz suite au passage d'Édouard Philippe au Sénat. Vous savez qu'il a fait son discours de politique générale. Il l'a fait à l'Assemblée, ensuite il l'a fait au Sénat. Et donc il y a ce sénateur qui s'appelle Claude Maturet, qui est sénateur de l'Allier. Alors lui était Les Républicains de 2014 à 2017. Depuis 2017, il est dans un groupe indépendant qui s'appelle Les Indépendants République et Territoire. Et il a dézingué à tout va. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais alors, je me suis fait un plaisir parce que tout le monde en a pris plein son grade. Je voudrais commencer par les premiers. Alors, les premiers qu'il a pointés, si je ne m'abuse, c'était la famille Le Pen. Alors, écoutez bien ce qu'il dit. Il est dans l'hémicycle, hein. Il est au perchoir en quelque sorte.
Il est de quel parti, pardon ?
Il est d'un parti...
Les Républicains et du Territoire.
Les Indépendants, République et Territoire.
Qui sont en marche.
Qui sont en marche, absolument.
Un mec un peu opportuniste, mais c'est pas grave, vas-y.
D'accord.
Où un parti extrémiste vient d'arriver en tête d'une élection nationale. Encore avons-nous la chance qu'à la différence des autres pays où le populisme est seulement d'extrême droite, il est chez nous partagé en deux, rendant les chiffres en apparence moins alarmants, mais en apparence seulement. Ce qui est incompréhensible, c'est que pour réclamer plus de démocratie, des électeurs votent pour le parti recordman du népotisme et de l'opacité, dirigé depuis 50 ans par le père, puis la fille, puis bientôt la nièce. Que pour dénoncer un système qu'ils estiment corrompu, ils votent pour le parti recordman des rendez-vous judiciaires, et que pour redresser l'économie, ils votent pour une dirigeante qui a fait la preuve de son incompétence absolue en la matière lors de la présidentielle. Napoléon disait en politique, une absurdité n'est pas un obstacle, nous le constatons tous les jours.
Voilà, donc ça, c'est, il ouvrait donc avec le Rassemblement National et il enchaînait avec Mélenchon, écoutez.
Si les partis extrêmes ne représentent plus que 30% aujourd'hui, ce qui est tout de même considérable, contre 40% il y a 2 ans, c'est grâce à l'effondrement du leader minimo de la France soumise à Cuba. Le corps sacré, auto-claironné lors d'une perquisition par l'homme au micro entre les dents, l'a disqualifié jusque chez ses proches. Les cascades d'exclusion ont délié les langues, et nous savons maintenant comment, avec son égérie, il dirigeait leur groupuscule.
C'est pas mal, hein. C'est envoyé, hein. Tenez.
Et malgré cela, ce qui est incroyable, ce n'est pas que LFI soit passé de 20% à 6%, mais qu'il y ait encore en 2019 6% des Français qui votent pour la révolution bolivarienne.
C'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Un petit mot sur la gauche et la droite, quand même.
Le deuxième coup de tonnerre de cette élection est que la gauche démocratique et la droite républicaine, à la tête du pays pendant 60 ans, aient obtenu ensemble moins de 15% des voix. En ce qui concerne le PS, l'explication, qui risque de ne pas plaire, et je m'en excuse, me semble largement partagée. François Hollande a mené avec constance une politique qui ressemble à celle d'une enseigne que j'ai vue l'autre jour sur la route, restaurant ouvrier, cuisine bourgeoise.
Oui, il est fort. Hein.
Ah,
il est,
ouais,
il est très fort. Il est très fort.
Tout est dit. Hein.
Ah oui, oui, tout est dit. Un petit mot sur la droite.
De l'autre côté, Nicolas Sarkozy déclarait le 26 mai dernier à 20h30 « Il n'y a plus de droite dans notre pays ». Je trouve le jugement expéditif. Je ne crois pas que la droite soit morte, mais elle est partie. Elle a commencé à partir le jour où quelques-uns de ses dirigeants ont décidé que la reconquête passait par l'adoption des idées les plus raides et qu'ils ont cessé de tenir compte des minoritaires. Le parti, mon parti, ne pouvait alors que s'effeuiller comme un artichaut. Lorsque presque tous les pays de l'Est de l'Europe, plus l'Italie, sont dirigés par des populistes, lorsqu'ils font 15 à 30% partout en Europe de l'Ouest, lorsqu'on est entouré de Poutine, d'Erdogan ou de Xi Jinping, il est temps pour les démocrates d'affronter les populistes et non de leur courir après. Le monde est devenu dangereux.
Voilà, un petit mot pour la droite et puis on terminera avec La République en marche quand même.
Alice Renaissance est arrivée deuxième le 26 mai. Mais vous êtes presque le seul à l'avoir fait remarquer, monsieur le Premier ministre. Sa déroute était tellement prédite que le reste du monde semble persuadé qu'elle a gagné. Je suppose que vous ne vous en plaignez pas, mais si j'insiste sur ce point, c'est qu'il me paraît important que quelqu'un, et vous n'êtes pas n'importe qui, garde la tête froide. Depuis 15 jours, certains cris de victoire un peu bruyants, certaines injonctions un peu appuyées, certains appels un peu martiaux, ne sont peut-être pas la meilleure façon de préparer l'avenir et de rassembler. Vous restez lucide et c'est à saluer. L'acte 1 du quinquennat a permis des réformes importantes. La SNCF, le Code du travail, l'École de la confiance et d'autres. La majorité du Sénat les a souvent soutenues, souvent amendées aussi. L'acte 1 a aussi été marqué par une grave crise sociale, parce que la disruption, on peut trouver ça sympa, mais ça n'est pas toujours l'avis de ceux qui sont disruptés. Vous êtes venus aujourd'hui nous annoncer l'acte 2. Ici même, il y a 2 mois, je disais, la conclusion du grand débat, c'est un peu une lettre au Père Noël. Le président a promis d'en tenir compte et c'est heureux, mais il va falloir aussi pour une part qu'il lui résiste. C'est la raison pour laquelle la phrase la plus importante de votre discours à mes yeux, c'est « constance et cohérence dans l'action ». Elle va susciter 2 sortes de réactions. Ceux qui diront que vous n'avez rien entendu, qu'il faut d'urgence faire marche arrière, et les autres, c'est mon cas, qui vous diront que c'est en restant immobile qu'on fait le plus de faux pas.
Voilà pour cette déclaration qui était quand même assez croustillante de ce sénateur Claude Maturet qui s'est fait connaître du coup sur le coup. Alors, j'ai pas compris pourquoi tu m'as dit qu'il était opportuniste. Patrick.
Non, mais tu me disais qu'il était des républicains. Et,
non,
et,
oui, c'est-à-dire qu'en fait, il était à droite. Il a quitté la droite.
Il a une belle étiquette, quoi.
Il a quitté les LR.
C'est un beau parcours, quoi.
Il a quitté les LR en 2017. Il est de 2014 à 2017. Il était dans les Républicains et aujourd'hui, donc, il est sur ces indépendants République et Territoires, un groupe qui à l'Assemblée sénatoriale, donc, a validé le discours de d'Edouard Philippe.
A voté la confiance.
Voilà, tout à fait.
Pour moi, il fait partie. Il fait encore un constat du système auquel il a participé, oui. De 2014 à 2017. Bon, il distribue.
Et avant.
Il distribue des bons points d'un côté et de l'autre. Bon, beaucoup d'humour. Bon, il faut qu'il aille vite bosser chez Rire et Chanson.
C'est pas mal quand même. C'est bien tourné.
C'est sympa, mais ça amène rien, quoi.
Il n'a rien proposé.
Ce qu'il a constaté quand même, c'est que sur tous les autres groupes, il y avait une critique assez acide. Par contre, sur Macron, il était plus dans le conseil que dans la critique.
Ouais. J'ai pas mis tout parce que ça durait longtemps, mais il donnait aussi des axes que Edouard Philippe n'avait pas visiblement annoncé.
C'est ce que je dis. Voilà. Les autres, ils les allument complets en disant qu'ils sont, ils ont rien à foutre là, quoi, en gros. Et sur Macron, ben, il peut mieux faire.
Et sur la phrase de.
Moi, j'ai beaucoup de mal avec les comptables et les donneurs de leçons. Et là, il pose un constat et. Il y a quoi derrière?
Il propose rien.
Il propose rien.
Attends.
Et il participe à quoi? C'est un sénateur. Il fait partie d'un système qu'on a tous décrié. Ouais. Et qu'on dit, c'est le genre de personne qui ferait mieux de dégager et de retourner un peu à la vie, à la vie civile et à l'activité, quoi. Moi, son statut.
Je pense que c'est intéressant d'avoir un gars qui fasse un constat, qui fasse un constat sur un constat qui me paraît totalement véridique, quoi.
Mais tout le monde fait des constats sur tout le monde. Oui, c'est ça qui est terrible.
Il est quand même bien placé, lui, puisque lui, il est donc sénateur, donc il voit ce qui se passe au niveau du Sénat. Il amende, comme il disait, il valide, et à côté de ça, il voit aussi ce qui se passe. Il a vu ce qui s'est passé lors de ces élections. Il a fait une synthèse et il présentait sa synthèse là. Moi, je trouvais ça plutôt bien écrit, plutôt bien envoyé.
C'est bien en forme. Mais
c'est vrai qu'il y a un côté showman quand même. Il est content de son texte, de sa littérature. Il s'exprime bien, c'est agréable. Il est agréable à écouter, c'est très bien.
Moi, tout ce qui pourrit Mélenchon me réjouit.
De notre côté, il ne fait pas beaucoup, comme disait Patrick, il ne fait pas beaucoup de propositions et on ne voit pas dans quel axe il peut.
Ce n'était pas là. Et on n'était pas là pour faire.
Par contre, moi, j'ai trouvé qu'il était quand même pro-macroniste quand même, parce qu'il a soutenu.
Il soutient, il termine son discours en disant nouveau. Notre groupe vote, comment tu as dit, Jeannot ?
Vote et ils amendent.
La confiance.
Voilà, vote la confiance.
Ouais, il suit le groupe de tête. Qui est au pouvoir et
mais
qui m'a
fait
distribuer quelques biscuits.
Pas aveuglément.
C'est ce qu'ils disent tous.
Non, mais pas aveuglément, puisqu'il a donné. C'est parce qu'il y avait encore 3 ou 4 minutes et je me suis dit, on va laisser tomber. Mais sinon, j'aurais pu mettre la totalité de son discours où il disait je regrette, Edouard Philippe, que vous n'ayez pas parlé de ça. Si tu veux, voilà, ça c'était. Mais c'était pas. Moi, ce que je voulais, c'était le constat qu'il faisait sur chaque partie qui me paraissait intéressant.
Oui, tout à fait. Puis, je pense qu'il y a un certain talent. Et on retrouve un petit peu les grandes heures de la 3ème République ou de la 4ème République où les gens s'exprimaient.
Les orateurs
beaucoup plus facilement que sous la 5ème, bien sûr.
On a perdu depuis 10 voire 20 ans des humoristes qui étaient assez sympathiques et qui nous faisaient des exercices comme cela. Les Coluche, le Luron et d'autres,
des proches.
On les a plus,
dans le cadre de hors politique.
Oui, nature a horreur du vide. Forcément, là, tu te retrouves avec un politique qui a des lettres et une façon de s'exprimer sur la forme qui est assez comique, un peu caustique. Ce qui dénonce, en même temps, il le fait. C'est-à-dire que quelque part, il nous dit des choses qu'on a tous envie d'entendre. Donc, il est aussi, lui, un populiste. Mais on a entendu qu'une partie. Et si le reste était relevé de la construction et de la proposition, On peut dire qu'il est talentueux, voilà, parce que c'est ce qui nous manque. Hein. Le passage où il dit qu'il faut pas aller vers les extrêmes, mais faire de la proposition, c'est intéressant. Ça.
Bien sûr, voilà, tout à fait, absolument. Ça, de pas aller courir.
Il dit, après.
Lui, il était à la droite, il était chez les LR, et il a dit non, mais attendez, il faut pas courir derrière. Il faut pas courir derrière. Hein, il faut s'opposer. S'il a quitté LR, c'est je pense pour ça. Et d'ailleurs, vous avez vu Wauquiez où
s'il a quitté LR, c'est peut-être pour ça aussi.
Oui, absolument. Et Wauquiez, alors justement, j'ai regardé un petit peu le baromètre Ipsos, là, vous savez, qui sort régulièrement, voir un petit peu après les élections donc, que l'on a vécues européennes, savoir un petit peu comment se situaient les têtes. Macron a gagné 5 points. Voilà, ce qui paraît très étonnant. Macron a gagné 5 points. Il est à 32% d'opinion favorable. Je veux dire, c'est pas exceptionnel. Mais bon, c'est son meilleur score depuis plus d'un an maintenant.
Mais moi, je suis persuadé que c'est lui qui a gagné les européennes.
Mais non, il a terminé deuxième,
et c'est lui qui a gagné parce que finalement, quand tu regardes, si tu fais le bilan de tous les autres partis, ben tu te dis finalement le Rassemblement National est arrivé est resté à un niveau qu'on connaissait, et finalement le seul qui a tiré son épingle du jeu et qui alors qu'il partait avec un handicap de plusieurs mois de conflits sociaux
et autres. Ça fait 3 ans qu'ils existent, pas plus.
Deux ans même. Moi j'étais persuadé qu'il allait se ramasser. Et ben
non, parce qu'en fait c'est un substitut à la droite classique, c'est-à-dire qu'il a rassemblé un maximum de
il a surtout détruit tous les autres.
Tout, mais c'est exactement ce que tu peux dire aussi.
Un substitut à la droite et à la gauche, hein, parce que regarde, il gagne 8 points sur les sympathisants des Républicains, et il gagne 6 points sur les sympathisants Parti Socialiste.
C'est un phénomène politique assez inédit sur la Complètement simple, mais surtout, inédit. Surtout, je dirais, prometteur, parce que c'est la première fois qu'on assiste à ce démantèlement des partis classiques. Ouais. Et au profit d'une espèce de large mouvement qui, effectivement, c'est un petit peu l'auberge espagnole, c'est-à-dire on prend ce qu'on y trouvait, mais à l'avenir, c'est sûr que c'est une façon de consolider la cinquième qui pourtant, les institutions de la cinquième qui pourtant ont été décriées, mais moi je pense qu'elle est repartie pour un tour.
Alors, on sera fixé, je pense, avec les municipales. Hein. Je pense que les municipales vont être très intéressantes. Hein.
Ah oui, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque étape.
Oui, j'y crois un peu moins à l'effet Macron sur les municipales.
Mais justement, je pense que c'est intéressant de voir. On est plus sur des élections de bonhommes d'équipe. Attends,
en fait, ce qu'on oublie de dire par rapport à si Macron a détruit la droite et la gauche, c'est qu'on.
Non, non, mais je suis pas d'accord. Il a pas détruit.
Non, 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 non. La droite et la gauche se sont détruites et Macron est passé.
Parce qu'on a eu affaire à un quadragénaire et ce rajeunissement auquel tout le monde aspirait et que tous les politiques réclamaient, c'est les urnes qui en ont parlé. Et voilà, c'est tout simplement.
La gauche s'est autodétruite par son incompétence, on va dire.
Comme la droite. Hein.
Comme la droite.
Comme la droite, mais enfin.
Attendez, les gars.
Quand même.
Attendez, je veux quand même. Je voudrais terminer vite fait.
Notre ami Sarkozy.
Attends.
Tu prends Balkany, c'est pas les mecs de gauche, ça.
Toujours au sujet de ce petit sondage, Yannick Jadot. On en parle, hein. Il entre directement dans ce classement où il n'apparaissait pas, évidemment. 7e place avec 27% d'opinion favorable. Mélenchon ne perd que 2 points. C'est pas énorme. Il est à 22% d'opinion favorable. Alors celui qui se prend une claque, c'est Wauquiez. Il est 33e du classement avec seulement 11% d'opinion favorable. Et alors, Wauquiez rejoint le trio de tête des personnalités politiques les moins aimées du PPF, hein, du paysage politique français, Manuel Valls, et écoutez bien, l'indétrônable, pour l'instant et depuis longtemps, François Fillon. C'est pour vous situer à quel point les Républicains sont dans la merde.
Mais que des gens qui ont été appréciés. Parce que pour être aussi détesté, il faut quand même avoir été apprécié. Il ne faut pas l'oublier, ça.
Du côté des Républicains, le seul qui échappe à la noyade, c'est Nicolas Sarkozy.
Parce que le temps a passé.
Alors est-ce qu'il va échapper à la guillotine?
Si remontre le bout de son nez, je peux te dire qu'il va vite être détesté.
33% d'opinion favorable. 33% d'opinion favorable. Il est mieux que Macron. Mais il devra quand même se dépêtrer des affaires dans lesquelles il baigne, hein, puisqu'il est mis en examen, je vous rappelle, pour les affaires des écoutes, hein, quand il se faisait appeler Paul Bismuth. Il est aussi donc.
C'est contre-pétrice.
Non. Il est aussi mis en examen pour l'affaire Big Malion, l'affaire du financement libyen, hein, il n'en est pas sorti. Alors, il a quand même réussi à se faire blanchir dans certaines affaires, l'affaire Wörth-Bettencourt, les voyages privés payés par Stéphane Courby, l'affaire de l'amende payée par l'UMP, vous savez, la validation des comptes de campagne
de 2012 avait...
On s'en rappelle.
Voilà, il avait fallu mettre la main à la poche, voilà.
Tout à fait, oui.
Alors il a toujours l'affaire Tapie qui est là, les sondages de l'Elysée, les contrats avec Kazakhstan, et il est cité dans l'affaire Karachi. Donc tout ça pour vous dire que d'ici à ce que Nicolas Sarkozy revienne en tête des LR, c'est peut-être pas demain la veille. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous imaginez là-dessus. Christian, qu'est-ce que tu penses ? Tu crois qu'il peut revenir ?
Non, moi je pense pas. Mais puis, moi, je fais partie des gens qui pensent que ça fait des décennies que ce combat droite-gauche, c'est-à-dire, était un peu pénible à vivre. Et je trouve que Macron synthétise bien, c'est-à-dire avoir les avantages des principes de droite et avoir les avantages des principes de gauche et arriver à mixer ça. Je pense que c'est ce qui est en train de se construire, mais ça se fait pas en un tour de baguette magique. Et voilà, c'est-à-dire faire en sorte que les gens puissent évoluer dans leur sphère tout en étant accompagnés. C'est ce qui est en train de se passer.
On marque une toute petite pause. On revient dans un instant. On a d'autres sujets à aborder, et notamment, puisqu'on est sur le cas de notre président et du gouvernement, hein, on pourra peut-être toucher un mot de la réforme du chômage. A tout de suite, ne bougez pas.
Du coq à l'âne.
Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Le numéro 630 du coq à l'âne avec, pour la dernière de la saison, tour de la table, une grande tablée, Jean Cointe, Michel Roussel, Pierre-Louis Rouni, Bruno Andé, Christian Bouteillon et Patrick Faure. On était avec le gouvernement et on était avec cette information qui est sortie cette semaine. Je voudrais avoir un petit peu votre avis, la réforme du chômage. Doit-on encore plus punir les chômeurs ? C'est la question que je vous pose. Doit-on ajouter de la précarité à la précarité ? Ça, c'est beaucoup ce qui est ressorti cette semaine, notamment au niveau des syndicats. Est-ce que vous avez suivi un petit peu le sujet ? Est-ce qu'il faut effectivement taper sur les chômeurs un petit peu plus que l'on tape aujourd'hui ? Messieurs, à vous la parole.
Si j'ai bien compris, aujourd'hui, pour avoir droit au chômage, il faut avoir travaillé 4 mois pour pouvoir en bénéficier pendant 24.
Non, c'est l'inverse.
C'est l'inverse pour 24 mois, 4 mois.
12. Ah oui.
4 sur 24.
4 pour 24.
6 sur 24.
Et là, on propose de passer à 6.
Oui, sur 28 ou jours, comme ça. Voilà. Il y en a d'autres.
Il faut lire, ça fait partie des choses.
Il y a les cadres qui sont taillés aussi. Hein.
Oui, est-ce que 5 000 euros d'indemnisation et on veut baisser le plafond.
Voilà.
Est-ce que tailler les cadres qui ont des revenus, des indemnités chômage importantes, c'est augmenter la précarité ?
Non. Non, mais moi je suis pas d'accord parce qu'un cadre il cotise beaucoup plus que les autres.
40%.
Alors, prends l'exemple d'un cadre. Vu qu'il a un salaire de XYZ, il a un train de vie d'XYZ, c'est-à-dire c'est pas des milliardaires, mais le gars il investit, il s'achète une maison. Allez, on prend un truc basique. Le jour où il est au chômage, le gars, faut qu'il continue à payer son crédit. Et forcément, vu son cadre de vie, il s'est pas acheté un T2, le mec, il s'est acheté un T5. Donc le crédit est lourd à porter.
Sauf qu'il a aussi pris des assurances chômage en conséquence.
Ah, ça, je sais pas, je suis pas dans l'intimité de chacun.
Non.
Mais en fait, je pense que la proportionnalité de recevoir par rapport à ce que tu cotises me paraît normale.
Oui, je suis pas d'accord avec toi. Non, là, par contre, si tu t'attaques au cadre, on peut se retrouver dans quelques temps, je veux dire, avec deux vitesses. C'est-à-dire un régime pour les pauvres et un régime pour les riches. C'est-à-dire que les cadres, ils vont se faire leur propre retraite.
Mais c'est déjà le cas.
Non, pas tous. Parce que là, on est quand même parti sur... Attends, tu cotises à 40% et tu es indemnisé à 15%, c'est pas normal. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Bah, déjà, la caisse de retraite des cadres, elle est à sèche.
Ouais.
Ça a été regroupé avec la caisse des salariés.
Ouais.
Donc, à un moment donné... quand on regarde le truc, il y a une cotisation, ils abondent à un certain niveau, mais derrière ils pompent plus. Alors c'est peut-être un phénomène de conjoncturel,
ils ont pompé à 42 et ils bénéficient de 15.
Mais à un moment donné, il faut savoir, du fait qu'ils consomment plus, il va falloir peut-être le camembert, le diviser. Leur vraie ressource, il va falloir le diviser par rapport au nombre de cadres retraités. Ça va réduire effectivement la retraite. Je suis franchement désolé, mais quand on a 44 systèmes de retraite en France.
C'est vrai que c'est un bazar.
Ça, c'est fini en septembre.
Oui, bah peut-être. Alors, fini, mon petit. Là, tu nourris plein d'espoir.
Non. La retraite.
Moi qui suis un naïf, invétéré.
La loi Pacte en septembre. Tu prends les 42 régimes de retraite qu'il y a et il n'y en a plus qu'un.
Non, bah c'est faux.
Tu verras.
C'est faux.
Non, c'est pas faux.
La SNCF et compagnie, EDF et compagnie.
Il va y avoir des mesures transitoires jusqu'en 2000. 25.
Il y aura des grèves jusqu'en 2025, tu dis.
Je dis qu'en septembre, quand les gens auront compris ça, les gilets jaunes à côté, ça sera rien du tout.
C'est de la rigolade.
Mais tu sais que ce combat sur l'inégalité, il y a longtemps qu'il a démarré. Là, il y a quelques jours, il y a eu un article sur le site du Nati, Nico, dans le Dauphiné Libéré, où il t'explique que c'était le premier gilet jaune. Je veux dire, les commerçants et les petites entreprises qui se sentaient spoliées, je veux dire, il y a longtemps qu'elles sont montées au créneau. En plus, lui, il avait fait fort, il a fait de la tôle et tout, il allait au bout de sa conviction. Je sais pas si son point de vue, on peut le partager ou pas. Mais je veux dire, il y a longtemps qu'il y a certains groupes sont partis en guerre contre l'injustice dite sociale. Parce qu'un commerçant, qu'est-ce qu'il a comme retraite, lui?
Ah ouais, mais c'est pas pareil, attends.
Et qu'est-ce qu'il a comme chômage?
On a parlé de la réforme de l'assurance chômage.
Ouais.
Ne sortons pas de...
Bon, donc un commerçant, qu'est-ce qu'il a comme chômage?
Et il paye pas, pourquoi il a...
Je réponds.
Mais il a même pas la possibilité de payer.
Bah, va le faire payer, tu vois. Déjà, le tarif normal des charges qui est inférieur pour un commerçant ou un artisan, et je sais de quoi je parle, par rapport à un salarié, le mec déjà, il pleure qu'il paye beaucoup. Et pourtant, il paye pas plus qu'un salarié. Par contre, effectivement, sa retraite, ça va s'en ressentir. S'il est malade, ça va s'en ressentir. Il a la possibilité, à un moment donné, d'abonder dans des systèmes qui sont supplémentaires, complémentaires.
Privés.
Oui, mais bon, pour le coup,
je suis pas contre. Non, mais je suis pas contre.
La parole est à Jeannot.
Non, mais brièvement, si vous voulez, l'assurance chômage, il faut absolument la réformer parce qu'elle est trop coûteuse et surtout... Même si elle porte certaines inégalités qu'on n'arrivera pas à gommer, il faut quand même avoir dans l'idée de motiver davantage les gens au retour au travail. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, parce que dans les milieux dits populaires, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, la première critique qu'on adresse à ce régime, c'est que vraiment, il y a des gens qui le matin ne se lèvent pas parce qu'ils disent qu'ils ont intérêt à toucher le chômage plutôt que d'aller travailler. Oui, ça, j'ai entendu 10 fois, 20 fois, 100 fois.
Oui.
Donc il est clair qu'aujourd'hui, il faut davantage de motivation.
Non, mais je pense que... Oui, vas-y,
Et puis surtout, il faut effectivement un contrôle drastique pour savoir si on est vraiment au chômage, dans lequel cas il n'y a aucun problème, on ouvre droit à indemnité, et si on est un faux chômeur et ça arrive, ou si même on est un fraudeur, il faut sanctionner tout ça, c'est tout.
Au lieu de s'attaquer donc là au problème du chômage, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'attaquer au problème du travail, et notamment de la rémunération? Parce que le problème, il est là. Il y a tellement peu de différence entre celui qui va travailler au SMIC, hein, on est d'accord, et celui qui ne travaille pas et qui reçoit donc une indemnité au chômage. Il y a tellement peu de différence qu'on se retrouve avec des personnes qui se disent « mais c'est pas possible, moi je vais aller bosser ». Mais entre la crèche que je vais payer, entre l'essence que je vais mettre dans la voiture, etc., je perds de l'argent. Alors que si je reste chez moi, je vais gagner de l'argent. Donc c'est là le vrai problème. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une bonne idée? Il y a eu une idée de la prime de fin d'année, la prime Macron, là, qui a été chaque société.
Pourquoi ça a marché? Parce qu'il y avait des défiscalisations, pas des défiscalisations, des aides.
Non, défiscalisées.
Des exonérations.
Cette prime est défiscalisée. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un jour qu'on puisse avoir... donc au niveau du SMIC, donc le SMIC qui soit payé, mais que la personne ait un petit peu plus, par exemple 100 ou 200 ou 300 euros de plus sur son salaire, et que cette partie-là soit défiscalisée. Et
en fait, si tu veux, il faut exonérer des charges sociales, c'est tout.
Non, mais pas sur le SMIC de base. Pas sur le SMIC de base. On reste exactement avec le même système. Mais l'employeur qui va donner 100 ou 200 ou 300 euros de plus à son employé, eh bien, cette partie-là est défiscalisée en totalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous n'avez pas l'impression qu'on aurait tendance à relancer le système?
En tout cas, il y a une chose qui est importante. C'est que les partenaires sociaux ne se sont pas mis d'accord.
Oui, bah comme d'habitude.
Non, pas comme d'habitude. Pas comme d'habitude.
Le patronat et les partenaires sociaux se sont pas mis d'accord et oui, donc le gouvernement a tranché.
Souvent, on se met pas d'accord la première fois, on se met pas d'accord la deuxième fois et la troisième fois, on trouve un terrain d'entente. Là, quand même, le fait que d'une façon définitive les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord sur un fond où la politique d'une manière générale on a vu disparaître les OPCA. Avant quand même c'était les partenaires sociaux qui s'en occupaient, ça a disparu.
Oui, mais...
le 1% patronal il y a quelques années, oui quand même. Non, mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État est en train de prendre la main sur toutes les négociations qui se faisaient bien ou mal par les partenaires sociaux. Et l'assurance chômage, quand même, là, il y avait un fonds politique qui était pas sain, parce qu'on ne pouvait pas s'en sortir. Si, du côté des syndicats de salariés, on considère que les charges sociales, parce qu'elles s'appellent comme ça, elles sont là pour alimenter des caisses qui vont subvenir aux besoins des gens qui n'ont pas de boulot, et que de l'autre côté, du côté des patrons, j'en fais partie, tu vas avoir tendance, d'une manière générale, à penser que ceux qui n'ont pas de travail, c'est parce qu'ils n'en cherchent pas, parce que toi, tu cherches plein de personnes pour travailler et que tu n'en trouves pas, t'arrives pas à te mettre d'accord. Surtout à notre époque, c'est plus possible. Donc l'État, malheureusement, eh bien, il vient dire aux partenaires sociaux, je crois que vous avez creusé une mésentente ou une discorde entre vous deux qui ne va pas aboutir à quelque chose de bon, qui n'aboutira à rien en tout cas. Et donc je prends la main, et à partir de maintenant, c'est comme ça que ça va se passer, et nous, on n'a plus rien à dire. Voilà. Et c'est peut-être un mal pour un bien.
Alors je reviens à toi, puisque tu es patron, tu embauches. Tu embauches à un certain salaire, d'accord, tu dois avoir des personnes qui travaillent chez toi qui sont au SMIC. Est-ce que, je reviens là-dessus, est-ce que si demain on t'autorise à payer le SMIC et les charges que tu vas payer dessus, mais si on t'autorise à, au-dessus du SMIC, à pouvoir payer un employé, l'augmenter de 100 ou 200 euros comme je disais, en sachant que là tu ne seras pas imposé là-dessus, est-ce que toi tu trouverais ça intéressant ou pas?
Je trouverais ça intéressant, mais si tu, à partir du
parce
moment.
Parce que là, on donne un pouvoir d'achat supplémentaire à tout le monde.
Ce qui s'est passé il y a de nombreuses années déjà, c'est qu'on a considéré que lorsque tu embauchais une personne à bas salaire, il fallait qu'il n'y ait pratiquement pas de charge. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la vie, je le condamne, mais c'est la vie, parce que je fais partie des gens qui ont profité du système. C'est qu'à partir du moment où tu dis, tu envoies le message clair au chef d'entreprise, si vous avez des bas salaires, eh bien vous ne payerez pas beaucoup de charges. Ça veut dire effectivement que les bas salaires, tu ne payeras pas de charges, mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui ont un certain salaire, si tu te débrouilles pour les payer un peu moins cher, tu ne payeras pas de charges. C'est comme ça, c'est inévitable. C'est comme ça. Enfin, ça relève d'une sociologie dont on ne va pas parler maintenant. Donc, c'est le message, le vrai message qu'il faudra envoyer, c'est que, quelque part, il n'y a pas que pour les bas salaires qu'il devrait y avoir peu de charges. Il faudrait que pour tout le monde, il y ait peu de charges. Parce que sinon, tu orientes, que tu le veuilles ou pas, surtout pour des grandes entreprises qui ont des gens qui n'ont que ça à faire dans la journée, de savoir comment il faut payer les gens pour qu'à la fin, tu gagnes quelques centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros. Ce n'est pas le cas des PME, mais c'est le cas des grands groupes. Et ils tirent les autres, avec les prix qui font ceux du marché, ils tirent les petites entreprises derrière eux. Donc, il faudrait finalement éviter de segmenter les salaires en termes de charges. Il faudrait se dire, ben voilà, maintenant, à partir de maintenant, on prend le pari, ça ne s'appelait pas aux partenaires sociaux, hein. Enfin, du côté des syndicats de salariés.
Heureusement qu'on avait demandé à tout le monde d'éteindre son téléphone. Hein. Merci Patrick Faure, bravo, félicite pas.
Idéalement, il faudrait dire, on prend le pari sur un certain nombre d'années, mais comment on le finance ? De considérer qu'on baisse les charges, comme ça a été fait à l'époque du CICE. Hein. Le CICE, ça a été pour tout le monde, et c'était quand même une bonne chose. Pratiquement pour tout le monde, on va dire. Voilà. Et ça a sauvé beaucoup d'entreprises. D'emploi. On prend le pari qu'en payant beaucoup moins de charges par personne, qu'il soit cadre ou qu'il soit ouvrier ou employé de base quasiment au SMIC, et on voit ce que ça donne. Et cette différence de charge, on la transforme en net. Si tu la transformes en net, forcément tu augmentes le pouvoir d'achat des personnes qui se retrouvent en situation de chômage.
Il fait que parler. Si,
ouais. C'est bon, ça, on peut y aller.
De toute façon, il y a une chose certaine en conclusion de ce débat qui est intéressant en demeurant.
Bien sûr.
Je pense qu'on a le système d'indemnisation du chômage le plus performant du monde.
Oui.
Alors il faut peut-être se poser la question de savoir si on peut le financer et à qui il s'adresse réellement. Voilà.
On termine avec Pierre Bruno et Patounet.
Pierre-Louis et Jean ont tout à fait raison. De toute façon, Pierre-Louis dit qu'on a le coût de travail des entreprises le plus cher d'Europe, et là, c'est là qu'on manque de compétitivité, parce que c'est indéniable. On a un bon système, mais il nous coûte cher. Et du coup, on perd en compétitivité. Mais après, le juste milieu, il faut arriver à le trouver. Moi j'ai espoir que de trouver un équilibre entre tout ça, mais par contre, ça sera pas facile. Et c'est là que les débats entre les organismes sociaux et professionnels vont être compliqués à mener, quoi. Parce que moi, je rappelle aussi le problème des emplois détachés, par exemple, qu'on va chercher les
travailleurs détachés.
Pourquoi pourquoi les entreprises européennes vont chercher des emplois, enfin des entreprises françaises vont trouver, vont chercher des emplois à l'étranger.
Toujours un problème de charge.
Et voilà.
Patounet, le mot de la fin.
Oui, non, au niveau de ce sujet-là, il y a aussi le sujet des CDD, des CDI. Il y a beaucoup de CDD qui mettent les gens en précarisation et qui n'arrivent pas à construire leur vie sociale aussi là-dessus. Je pense que si on allégeait les charges sur des nouveaux emplois en CDI, qu'on chargeait peut-être plus les CDD, le recours aux CDD à ce moment-là pour les entreprises, je pense qu'elles seraient... il faut dissuader d'embaucher un CDD parce que bon, c'est valable pour un certain nombre d'entreprises effectivement, ça les arrange, mais par contre les gens pour construire leur vie, pour prendre des crédits et tout, c'est la merde.
Donc à ce moment-là, aux États-Unis ils sont tous en CDD.
On est pas aux États-Unis, on est en France.
Donc à mon avis,
s'il vous plaît. Je pense que Christian est en train de s'endormir, donc je ne voudrais pas qu'on le perde définitivement.
Je le trouve atone aujourd'hui.
Bah ouais, complètement. Après, voilà.
Une fois qu'il ne parle pas.
Non, mais c'est parce qu'on n'a pas parlé, vous savez de quoi ?
Taxe foncière.
Des bateaux.
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.
Et je suis foncièrement contre cette taxe.
Dites, on va parler aussi d'un autre truc, là. Le trafic de drogue. Oui, alors, je sais.
Oh, bah non.
Ah, bah si. Si, pour endiguer le trafic de drogue à la sortie des écoles, notamment dans les quartiers difficiles, dans les halls des tours d'immeubles, la question est, est-ce qu'on n'autoriserait pas le cannabis ? Et si l'État prenait sous son joug la commercialisation de l'herbe, et si cette herbe était cultivée par nos cultivateurs, et si on mettait, comme pour les clopes, une taxe pour la beuh, certains députés prônent une légalisation contrôlée, vu que la politique de répression est un échec total. On apprend qu'une recette fiscale de près de 2 milliards pourrait rentrer dans les caisses si l'État pouvait gérer la vente de ce cannabis.
C'est juste pour détendre l'atmosphère.
Exactement.
Vous savez qu'en France, le 31 mai, c'est la journée sans tabac.
C'est quoi cette fumée, là ? Il y a de la fumée, là ?
Mais non, il n'y a pas de fumée, là. Quelle langue de pute, alors, il y a personne qui fume. Donc, vous savez que le 31 mai, c'est la journée sans tabac,
ouais,
en France.
Oui. Ouais.
Et le lendemain, c'est le 1er juin.
Oui, ouais, c'est le 1er juin, absolument, tout à fait.
Bon, alors, on veut légaliser, mais je veux bien, moi. Mais on ne peut pas dire qu'on fait des campagnes anti-tabac tout en légalisant la défense, quoi, la drogue. C'est bizarre. On fait des campagnes anti-tabac, on dit aux gens d'arrêter de fumer.
Mais il faut pas aller vite, il faut pas manger gras.
Fumer des cigarettes et fumer de l'herbe, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Fumer une cigarette.
Mais tu fumes toujours quand même.
Non. Ne comparons ce qui est comparable. Ouais. Le jour où tu fumes et que tu fumes une cigarette, tu vas en fumer une deuxième, une troisième, une quatrième. Et,
quand tu fumes un joint, tu en fumes une deuxième, une troisième, une quatrième.
Non. Le joint, excuse-moi, ouais. Le joint, tu peux en fumer un pendant, je sais pas, un soir, ouais. Et tu vas rester pendant un mois sans fumer un autre joint.
Je suis pas d'accord avec toi.
Mais si. C'est pas addictif au point.
Ah, si.
Non. C'est pas addictif au point de la cigarette.
Je suis pas d'accord.
Non. Ah, bah non. Attends, ça a été démontré. Ce n'est pas addictif au point de la cigarette. L'idée, c'est de réussir à réguler ça avec un niveau de THT qui soit, tu sais, un faible niveau, que l'on puisse donc trouver ça dans des comme au Portugal, comme au Canada,
non,
comme pour dans différents
non,
Hollande,
non, non, mais pour, non,
différents
non,
États des États-Unis.
Non, mais d'accord, mais pour être sérieux, le fait est de légaliser, il y a un avantage, c'est que ça éviterait le trafic,
que
ça éviterait surtout des produits qui sont complètement coupé par des saloperies immondes, donc au moins le produit entre guillemets serait sain.
Et
en plus, comme on serait obligé, c'est ce qui se passe en Suède avec l'alcool par exemple, c'est le magasin d'État qui vend de l'alcool,
ouais.
Donc de fait tu trouves pas facilement, tu es obligé d'aller quelque part dans un espace dédié, et je pense qu'au travers de la légalisation, le consommateur qui irait chercher sa cigarette de marijuana ou je sais pas, ouais. Il y a peut-être un dialogue qui s'installerait avec le vendeur, le consommateur. Il y a peut-être une ouverture d'esprit, un conseil. Je sais pas. Peut-être que ça peut apporter quelque chose.
Derrière le problème de la drogue, il y a quand même, comme pour l'assurance chômage, du dogme. Tu peux pas faire entendre à 100%, mais même à 80% de la population française que demain, alors que tu dis que le tabac c'est mauvais pour la santé, que l'alcool c'est pas bon pour la santé, que même trop manger c'est pas bon pour la santé, que tu vas légaliser la drogue, c'est pas audible.
J'ai pas dit légaliser la drogue, j'ai dit légaliser le cannabis.
Ouais. pardon de ne pas être un spécialiste.
Mais non, mais attends, c'est une différence.
Oui, t'as raison.
Attends, c'est non,
mais moi, je sais pas.
J'ai pas parlé d'héroïne, j'ai pas parlé de cocaïne, j'ai parlé de.
De cannabis.
Cannabis. Okay,
d'accord, mais même, il me semble que dans l'esprit des Français, j'en suis un moyen. Le cannabis et que le cannabis, c'est pas moins grave que l'alcool ou que la cigarette. Voilà, c'est
pas moins grave, non, mais c'est pas plus grave non plus.
Non, mais bon, en tout cas, c'est dans l'esprit des Français, parce que pour l'instant.
Mais je savais qu'en mettant sur la table avec une tablée de vieux ici le problème du cannabis, je savais que j'allais me retrouver avec 7 personnes contre moi.
Non, c'était pas ce que je voulais. C'est pas là. Ce que je voulais dire, c'est que
je les excite là.
Deux secondes. Ce que je voulais dire, c'est que je vous écoute bien.
Hein. Vas-y, fais tourner.
Je te mets mon billet que dans 10 ans, voire 15 ans, comme on n'aura plus de monnaie papier ou pièce, vous savez que Google vient de sortir sa monnaie. Hein.
Ouais. Non, pas Google. Facebook, pardon.
Pardon.
Mais Google va arriver.
Et Google va arriver. Ouais. Vous verrez que comme on n'aura plus d'argent comme ça dans les poches. Et qu'on payera tout par carte.
Ça s'appelle de l'argent liquide.
Ouais. Et qu'on payera tout par argent.
Simple contact.
Voilà. Ben, tout sera tracé. Et à mon avis, ceux qui vendent ces choses-là de façon illicite n'auront plus la possibilité de le faire. Et ça s'éteindra
ça arrivera pas demain.
Ça va aller très très vite.
Il y avait une expression quand j'étais petit, quand quelqu'un disait une connerie, il me disait mais tu touches la nuit.
Non mais ça me fait plaisir vous soyez parce que je vous mets mon billet.
Mais
comme
mais
on dit,
tomber.
Tu verras.
Combien tu mets.
Mais tu sais ça c'est comme le black. Depuis qu'il y a ces nouvelles caisses, alors c'est sûr qu'il y en a toujours qui vont trouver des solutions.
Bien sûr,
d'accord. Mais il y en a beaucoup moins qu'avant.
Jeannot.
Beaucoup moins qu'avant.
Jeannot, est-ce que tu es d'accord avec moi pour la légalisation du cannabis sous contrôle de l'État ?
Non, je ne suis pas opposé non plus, mais il faut attendre l'évolution des mentalités, de la société, des mœurs, pour effectivement ce qui va se passer, parce que le commerce de ce type de produit suscite bien des convoitises, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un petit peu regarder certains États américains qui ont légalisé, voir les retours d'expérience, voir ce qui se passe vraiment, si c'est valable ou si ça l'est.
Alors, il y a des États aux États-Unis, c'est pas valable. Au Canada, c'est moyen parce qu'il y a le THC, le niveau de THC au Canada, visiblement, ne plaît pas aux consommateurs. Il est trop faible. Donc, ça commence un petit peu le marché noir à reprendre. Par contre, il y a des pays où ça fonctionne, et notamment au Portugal, où ça fonctionne très bien, où, on s'est rendu compte que le nombre de consommateurs avait baissé.
Moi ce que je propose, c'est que pour relancer ça, nos agriculteurs, on les autorise justement à cultiver ça.
Mais c'est pour ça que je propose, ça serait une très bonne idée.
Je verrais bien, c'est à Lardier sur le plateau, des champs de cannabis à mort. Et on nourrit les porcs de Dédé au cannabis.
Un libre service.
Tu fumes pas de joint, tu manges un cochon à Dédé et t'es bien.
Est-ce que vous admettez tout de même que ce qui donne envie à ceux qui utilisent ces substances, c'est notamment le fait que ce soit interdit? Donc, si vous légalisez...
Tu dis n'importe quoi,
C'est comme ça. Quand tu commences, c'est interdit.
Oui, quand t'es jeune.
Tu connais beaucoup de gens qui s'y mettent à 40, 50, 60 ans.
Ah, qui lâchent pas. Absolument. Beaucoup. Beaucoup, peut-être pas. Moi, je connais pas beaucoup de monde.
Thierry va nous faire essayer après.
Christian a commencé tard.
Il a jamais lâché.
Il y a une comparaison, c'est par rapport à la prohibition, par rapport à l'alcool.
Exactement.
On a mieux réglé le problème de l'alcool en légalisant qu'avec la prohibition. Exactement. Où le banditisme s'est développé à vitesse grand V.
Et l'alcool frelaté
les alcools frelatés qui déglinguaient beaucoup plus les gens.
Y en a qui perdaient la vue.
Moi je crois que tout ce qui peut pas se cacher, il faut le montrer. Et c'est en montrant les choses et en état attentif qu'on arrive peut-être à trouver des solutions un peu moins cons.
Oui, voilà. Après
le cannabis, on est.
Mais cela dit, tu aurais dû nous faire un pétard à chacun parce qu'au moins on aurait su de quoi en parler.
Le cannabis.
Non, mais après l'émission.
Tu sais que il existe déjà le cannabis thérapeutique.
Mais oui, tout à fait. Je voulais en parler, mais j'arrive pas à en placer une.
Vas-y.
Parce qu'on est en train de le mettre en place pour les sclérose en plaques
tout à fait. Et des cultivateurs s'en chargent.
Bah bien sûr, faut bien que quelqu'un cultive quand même.
Donc il faut anticiper, tu fumes pour éviter ça.
Ouais, aussi, par la même occasion.
Moi j'ai une cirrhose, j'y ai pas droit.
T'as pas le droit, la cirrhose ça marche pas.
Bon.
C'est le fameux sketch de Coluche, Gérard.
Ouais. Ce sont les mêmes spécialistes.
Tu passes tes journées enfermées dans les cabinets à fumer des saloperies. Gérard, ta mère en a trouvé dans tes poches et tu les empêches les cabinets.
on devrait dire que le pinard devrait être obligatoire. C'est comme ça que disait... quand on voit la gueule de la jeunesse aujourd'hui, le pinard devrait être obligatoire. C'était la fin du sketch de Coluche. Bon, allez, on va s'amuser un peu, les enfants, parce qu'on est là pour s'amuser.
Ah, enfin.
Je vais vous mettre des génériques. Alors, c'est celui le plus rapide qui les trouve.
C'est Christian qui va gagner.
Oh, pas sûr.
Oh, je sais pas.
C'est le plus précoce.
Allez, alors il y a de tout. Il y a des génériques télé, il y a des génériques radio, il y a des séries, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des trucs vieux et des trucs pas vieux.
À l'Académie des... je sais pas quoi là.
Oui, des Neufs là, non? Absolument, Académie des Neufs. Qui était
Ben Foucault.
Oui, tout à fait, absolument.
Ah oui, mais...
Ah, oui, c'est un feuilleton, oui.
Non, c'est une émission.
Émission, ouais. Ça.
Sur France 3. Ouais. À 20h.
Les jeux de 20h.
Oui, non, oui, bien oui, sûr. Oh, les jeux de 20h.
Zappy Max.
Un autre. Ah non, c'est pas lui. Qui nous a quitté cette semaine.
Il vient de mourir.
Qui nous a quitté cette semaine. Écoutez, un jeu. Un jeu qui avait lieu sur France 2. Antenne 2 peut-être. À midi avant.
Impitoyable. Je dirais moi que lorsqu'un vieux chat rencontre une jeune souris et accueille un jeune loup, ça donne une.
Je crois qu'à cette époque, je devais pas être chez moi à midi.
Une histoire de briques.
Ouais, ça me dit rien du tout. Non.
Pyramide, les enfants.
Oh là, non,
pyramide.
C'est pas du tout mon truc. Ça.
Bah si. Alors, une petite série.
Vas-y. Oui. L'amour du risque.
Ah, trop fort. Un autre.
Amicalement ventre.
Oui. Là, on... les cultissimes.
Ah, le
cultissimes.
7 à 8.
Non, tu es pas loin.
Non, 7 sur 7.
7 sur 7.
Bélire. On les reconnaît, hein, les fans.
On les voit, les gars qui sont devant leur télé. Hein.
On est obligé.
Allez, plus dur.
Bon, Étienne Dao, mais bon, après...
Alors, je vous mets sur la voie, c'était une émission de Chavannes.
Coucou, c'est nous.
Non. C'était l'après-midi. C'est encore mieux l'après-midi, les enfants.
Ouais, mais on n'est pas devant la télé, nous, à ce sourcil.
Ah oui.
Ah, le cinéma, là, le...
Oui, c'est ça.
Ouais.
Le cinéma de minuit.
Voilà,
le cinéma de minuit, absolument.
Ça, c'est un truc avec Dorothée, non?
C'est pas loin. Allez, enfin.
La turlute argentée.
Croque vacances.
Ah ouais,
là.
Moi, tu vois, c'est.
Bah, chiffrer les lettres.
C'est
facile, ça.
Ça se passe à minuit.
Ah
ça.
Oui.
Interlude.
Interlude.
c'est pas le truc Follon, là?
Oui, absolument. Les fins de programme.
Ouais, tout à fait. Ouais. Hey.
À fin de vie.
Tu vois, moi je me rappelle que les émissions vers minuit, moi. La puissance des toiles.
Oui. Et là, les vieux, ils sont vraiment en tête. Hein.
Ah, tu sais qu'en plus, j'ai travaillé au cirque d'hiver. Hey, c'est un bon souvenir.
Avec Roger Lanzac.
Non,
il a fait son cirque, oui.
Vous vous souvenez des clowns qui étaient là?
Ah, ben le clown blanc et l'autre, là, oui.
Oui, oui, oui.
Alors il y a, un truc, Adalio, un Yalio, non.
Les barrios.
Les barrios, voilà.
Eh oui, vous en souvenez, bien sûr.
Et le chef d'orchestre qu'on met toujours de dos.
Eh oui, oui, oui.
Bernard Allaire, il s'appelait.
Au bout d'un moment,
chef d'orchestre.
Oui.
Non, Bernard Allaire, c'est un comique.
Mais non, tu te trompes. Ouais, Bernard Allaire, c'est un comique. Ouais. Non.
Oui, ça plaît.
Je sais plus, mais
t'as l'air d'un con. Hein.
pas plus que d'habitude.
Il en avait marre d'être de dos et de temps en temps.
Il voulait que le public le voit.
C'est souvent comme ça quand t'es de dos.
Attention, celui-là c'est mythique.
Ça fait flipper. Hein.
C'est mythique.
C'est le petit train là qui passe, non?
Ah oui.
Ah,
c'est comme
le cinéma.
Spectateur.
Oui.
La séquence du spectateur. Oui, c'est ça.
Vous vous souvenez, c'était le dimanche midi.
Ah oui, ça c'était bon ça.
Il nous passait
3 minutes de film.
Voilà, absolument.
Pierre Chérian, non? C'était ça.
Je sais pas si c'est Chérian qui le présentait.
Non, c'était une speakerine qui présentait. Jacqueline Courage. Non, pas celle-là, une autre. En fait, dans ces jours-là. Le petit train là. Vous avez vu ce petit train,
avec
vous
l'avez vu. Avec les rébus, ouais.
Absolument. Attention. Ah bon, on l'a déjà fait celui-là.
Oui, il me semble.
Je sais même plus ce que c'est, mais on l'a
fait. C'est le jeu de 20h.
Saint Cocaï.
Oui.
Je sais même pas ce que c'est, moi, ça.
Il est énorme. Il est énorme. Il est énorme.
Je suis ton père.
Putain, mais il en passe du temps devant la télé, lui. Hein.
J'ai rien branlé de ma jeunesse.
Saint Cocaï.
Ah, c'est pas mon style, moi. Oh,
mais c'était les.
J'attends.
C'était les dessins animés.
Les trucs japonais,
oui,
dessins japonais.
Là, voilà. Les mangas.
C'est là où on voit la différence de génération.
J'en ai mis des, comment ça s'appelle, des lunettes de ski, des filets d'orage dans les cheveux. Une balade avec la rôtissoire à la main. Fait,
mais ça t'a laissé des traces. Hein,
c'est ça vient de là.
J'ai joué à Saint Cocaï.
Surtout la rôtissoire. En fait.
Ouais. Allez, un dernier, vieux. Une série. Un feuilleton.
Vidocq.
Oh, oui.
Alors, franchement, bravo parce que il était pas simple.
Oh, tu nous as pas mis Rocambole, tu nous as pas mis Thierry Lafronde.
Ah bah ouais, non, mais je pouvais en mettre 250, on peut faire 250.
Rocambole, j'adorais moi ça.
Alors, tiens, un petit dernier. Radio. Je sais pas si vous allez le trouver. Peut-être Jeannot.
De radio,
ah,
Philippe.
Ouais. Mythique. Une histoire d'oreille.
L'oreille en coin.
L'oreille en coin. Bravo.
Ah, tu aurais pu nous mettre le grand échiquier aussi.
Ah oui.
C'est facile. Ça faisait l'oreille en coin. Alors bon.
Et ce sera le mot de la fin. L'oreille en coin. Bon, sur ces bonnes paroles, merci les gars.
Ouais. Merci à toi.
Et ben bon été.
Merci
bon
d'avoir assuré tous ces numéros de la saison 2018-2019. J'espère qu'on sera toujours là pour une nouvelle saison 2019-2020. Pour d'autres numéros, c'était le numéro 630. Jean Cointe, Michel Roussel, Pierre-Louis Rouni, Bruno André, Christian Bouteillon, Patrick Faure. Merci les gars. Passez un bel été et on se retrouve en septembre. Ciao.